Courant porteur. Initiative et résilience d'un territoire.
Un temps pour découvrir des personnes, des projets et dynamiques qui se passent maintenant et à côté de chez vous.
Un temps pour décrypter des sujets de fond, comprendre et donner du sens.
Une émission mensuelle présentée par Elisabeth Lucan et Ludovic Jiquel, cofondateurs de Senescence.
Une association qui accompagne la création d'entreprises dans le Val-de-Saône. Bonjour auditrices et auditeurs de Calade Ma Radio, bonjour Ludovic.
Bonjour Elisabeth.
Alors aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, nous allons présenter le parcours de Ludovic, cofondateur de Senescence, parce que nous avons à cœur de transmettre des initiatives du territoire, et c'est vrai que dans ton parcours, il y a quand même un certain nombre d'initiatives, et on va le découvrir, qui sont attachées à ce territoire.
Bien sûr.
Et sur la deuxième partie de l'émission, là aussi, c'est un sujet que tu maîtrises. On va parler de gouvernance partagée.
Le collectif, ma passion.
Alors, Ludovic, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, s'il te plaît ?
Eh bien oui, un grand plaisir. J'ai fait des études d'ingénieur informatique, donc à l'INSA de Lyon. J'ai grandi en région parisienne, mais je suis descendu dans la région lyonnaise pour y rester, au moment de mes études. Et cette voie était à la fois la mienne et pas tout à fait la mienne, parce que c'était celle de mes parents. Enfin, ma maman était ingénieure informaticienne. Et au moment d'avoir mon diplôme en poche, j'ai testé effectivement une grande boîte d'informatique. Et au moment où je candidatais, je savais que 2 ans après, je partirais en voyage pendant 1 an avec 3 autres amis ingénieurs, dont celle qui allait devenir ma femme. Après ce voyage-là, je n'ai pas repris ce chemin-là. Et ce voyage, du coup, en 2009-2010, pendant 1 an en Asie et en Afrique, a été vraiment, vraiment initiatique pour moi, à pas mal d'aspects. On est allé se paumer dans des petits villages isolés avec à chaque fois un interprète pour pouvoir dialoguer avec les personnes. Et un petit spectacle qu'on partageait dans les petits villages aux enfants, aux adultes, qui marchaient bien et qui était notre manière de donner. Et on a fait une sorte de d'étude de mode de vie comparative de ces villages. Et en fait, c'était surtout la Libye pour aller vivre, voir comment les personnes mangeaient, travaillaient, comment ils vivaient en fait leur culture et aussi leur rapport entre eux, leur rapport à la spiritualité. Et j'avais avant de partir pas vraiment d'idée ou sur le champ spirituel, j'avais pas vraiment grand chose, et au retour il y avait vraiment quelque chose qui s'est aligné en moi dans mon parcours et dans une vision différente de l'humanité et de l'altérité. Et au retour, on a créé un vrai spectacle d'1h30, enfin même de 2h, qu'on a joué une quinzaine de fois, surtout en région lyonnaise, de manière à pouvoir partager notre voyage et surtout ce qu'on y a vécu, ce qu'on y a appris, sous la forme de danse, de chant, de clown, chant aussi.
De piano ?
Non, il n'y avait pas de piano.
Ah, il n'y avait pas de piano, parce que Ludovic est pianiste.
Et dans ce spectacle, on proposait de réfléchir à comment les personnes pouvaient diminuer leur impact sur l'environnement tout en gagnant en qualité de vie.
Déjà.
Voilà, c'était la thématique de ce voyage, cette belle aventure qui s'appelle Dialogue sur Terre.
Et ensuite, est-ce que tu as repris le chemin du salariat ou pas du tout ?
Non. Je me suis d'abord investi dans mouvements associatifs, alternatifs, la transition citoyenne et rapidement après l'habitat participatif. Parce qu'avec ma conjointe, nous avions l'envie de collectif. On vivait déjà en colocation et pour nous, l'habitat participatif était la marche d'après. Et donc, ce qui a donné lieu à l'aventure et la dynamique des Choulans. Donc les Choulans, c'est le lieu où je vis encore aujourd'hui. Voilà, on a acheté on est en tous sept foyers aujourd'hui, un corps de ferme à Saint-Germain-en-Mont-d'Or en 2012. Et nous y avons fait beaucoup de rénovations et beaucoup de chantiers participatifs. Et il y a également, voilà, il y a pas mal de surfaces communes, voilà, de chambres partagées. On a une cuisine commune en plus de nos cuisines individuelles. Il faut savoir que l'habitat participatif, c'est moins communautaire qu'une colocation. En règle générale, chaque foyer a son appartement qui est complet, hein, qui a cuisine, salon, etc. Et il se trouve que nous choisissons en plus de mutualiser une cuisine commune, mais aussi un salon commun et aussi une grande salle qui permet de faire des fêtes, des concerts, des formations. Voilà, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure justement puisque c'est aussi le quartier général de son essence. Donc cette aventure de l'habitat participatif, c'est aussi l'aventure du collectif. Voilà, on connaissait pas avant les personnes avec qui on a choisi d'habiter et de faire ce projet-là. Et c'est une véritable aventure humaine où on apprend à décider ensemble, à communiquer, à mieux communiquer, à transformer les conflits.
À parler des non-dits.
À parler des non-dits, absolument, ouais.
Et vous mutualisez également les achats de nourriture, mais pas que.
Et oui, donc la mutualisation de l'alimentation est une spécificité. C'est quand même assez rare dans les habitats participatifs. On retrouve ça en coloc, mais là moins. Mais effectivement, depuis 12 ans, ça fonctionne bien. Donc voilà, on achète en commun. Et qu'on s'invite chez les uns, chez les autres, qu'on mange dans les communs, ça revient un petit peu au même. On compte le nombre de repas qu'on a mangé chaque trimestre. Et du coup, c'est l'association Les Choulans qui gère et fait la compta et qui fait des appels de charges à chaque fois. Voilà.
Plus les véhicules.
On a effectivement aussi une petite flotte de véhicules partagés, propriété de l'association, qui nous permet de mutualiser aussi. Par exemple, en plus certains trajets à l'école par exemple ou la gestion technique des véhicules, enfin voilà, il y a vraiment du sens et de l'entraide au quotidien qui est permise par ce type d'habitat. Il faut savoir qu'on est aussi ouvert sur l'extérieur. Pendant les journées européennes du patrimoine, en septembre, on est à chaque fois ouvert et on accueille en général une centaine de personnes qui viennent nous visiter. Voilà, depuis 2012, il y a plusieurs milliers, je pense, de personnes qui ont pu voir et être témoins de ce mode de vie qui est vraiment chouette, qui correspond à ceux qui l'ont choisi. Et je pense que c'est un mode de vie qui est vraiment porteur de sens, qui n'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais il faut l'avoir goûté vraiment pour voir. On a vraiment nos espaces intimes, nos appartements, et on peut faire les ours si on le veut. Mais en s'alliant, on a accès effectivement à des belles surfaces, des moments de vie très réguliers où on n'est pas seul. La force du collectif, ça peut aussi, fait qu'on accueille, régulièrement des personnes qui sont dans le besoin ou des migrants, parce qu'on a des chambres d'amis à partager, donc c'est vraiment tout à fait fluide de faire ça, mais effectivement, il faut un collectif qui soit cadrant et mature du coup pour pouvoir avancer.
Et ça fonctionne puisque il y a eu un seul départ, et c'est pas un départ parce que ça n'allait pas, plutôt parce qu'il a souhaité agrandir sa famille et qu'il était amené ailleurs.
Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait.
Et alors le boulot ?
Le boulot, pendant ce temps. Eh bien oui, au retour, je me suis investi au niveau perso là-dedans, dans l'habitat participatif. Et voilà, en parallèle, j'ai entrepris. Voilà, j'ai fait un premier modèle économique avec une première aventure entrepreneuriale avec deux amis qui finalement n'a pas fonctionné. Voilà, on voulait amener l'écologie dans les lieux de travail. Et rapidement après ça, j'ai continué tout seul vers un sujet connexe que j'ai défriché, celui de l'assistance à maîtrise d'usage. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est remettre de l'humain et du participatif dans le cycle de vie des bâtiments. Aujourd'hui, on construit des bâtiments qui assemblent effectivement plein d'expertise de l'énergétique à l'urbanisme, en passant par l'architecture, l'agencement et tout ça. Et c'est tout ça au service de l'habité, que ce soit du tertiaire ou de l'habitation. Et donc, quelque chose de passionnément humain. Et pour autant, c'est un sujet qui est souvent, et trop trop souvent, bien trop technique et sur lequel l'usager final n'a pas toujours son mot à dire sur les règles de fonctionnement du bâtiment, l'ouverture, les espaces partagés. D'ailleurs, qu'on parle d'opérations immobilières classiques avec des promoteurs qui commencent à mettre certaines pièces communes dans leur programme d'habitation classique, ou des collectivités ou des entreprises qui veulent aussi réfléchir avec leurs collaborateurs et collaboratrices comment sont agencés les espaces et quel est le commun et comment le bâtiment il peut servir aussi l'organisation.
Oui, c'est quelle expérience les personnes qui vont y vivre vont vivre.
Oui, et remettre du participatif et du collectif de manière à ce que effectivement les usagers aient voix au chapitre. Et c'est un changement à deux niveaux parce que les gens n'ont pas forcément toujours l'habitude qu'on leur pose la question. Et souvent, en fait, quand on leur pose la question, ils disent « Ah bah ouais, il y a ça ». Mais le plus gros changement et le plus gros verrou, c'est évidemment chez les professionnels du bâtiment. Pour changer leur processus et leur pratique de manière à donner un peu plus voix à ceux et celles qui vont réellement habiter.
C'est un sujet complexe et l'économie d'un bâtiment pour que ça fonctionne, c'est pas simple. Et je crois que tu as coordonné un livre blanc sur le sujet.
Oui, parce que j'ai travaillé en tant que assistant à maîtrise d'usage. Alors j'ai coopéré avec plein d'autres acteurs, tantôt sociologues, tantôt formateurs, tantôt énergéticiens, pour co-construire ce métier. Alors pas tout à fait ex nihilo, hein, il y avait d'autres aspects, d'autres disciplines qui s'en approchaient, mais il y a eu vraiment quelque chose qui s'est amalgamé, cristallisé autour de cette notion et cette appellation. Et en 2020, j'ai coordonné l'écriture d'un livre blanc sur le sujet. Et j'étais aussi à l'origine d'un réseau de pairs, un réseau professionnel national qui continue toujours, le réseau de la MU. Et ça a été une magnifique apprentissage, magnifique aventure où j'ai appris des rudiments de la formation, de la posture d'accompagnement et de différents types de collectifs. Voilà. Et cette initiative, je l'ai fait émerger, je l'ai fait grandir au sein de l'économie sociale et solidaire, puisque j'ai choisi de rejoindre une coopérative d'activité d'entrepreneurs, Oxalis, pour ne pas la citer. En 2012, c'était du coup, cette aventure a duré 8 ans, pour créer cette activité. Et assez rapidement, à partir de 2017, je me suis dit, c'est bien que je ne serais pas tout seul. Donc j'ai demandé à d'autres entrepreneurs d'Oxalis, donc voilà, qui avaient d'autres activités, notamment de la formation ou de l'accompagnement, à me dire, bah tiens, il y a un truc à faire dans le bâtiment avec l'AMU, faisons ensemble, quoi. Et donc, j'ai fédéré autour de moi, on était un collectif de 8 personnes qui, pour la plupart à temps partiel, ont mutualisé notre marque. Alors, à l'époque, ça s'appelait V2B. qui faisait de la AMU. Et donc, j'ai créé au sein de cette coopérative Oxalis un collectif en gouvernance partagée. Donc, on s'est formé ensemble avec l'université du Nou, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, à comment on fait en sorte que on ne soit pas dans le pyramidal, mais que chacun et chacune, on puisse œuvrer et avoir sa place dans cette aventure de l'AMU.
Et je crois que tu as également été administrateur d'Oxalis.
Oui, j'ai vraiment adoré l'écosystème et la culture de cette boîte, hein, Oxalis, qui est donc une coopérative ou une forme de portage salarial coopératif, on va dire, où on est à la fois entrepreneur, salarié, et donc c'est effectivement notre chiffre d'affaires qui nous permet de dégager un salaire, et associé de cet outil commun, et que je me suis vraiment réellement approprié, hein, comme la plupart des Oxaliens et Oxaliennes. Et voilà, j'ai été pendant 5 ans, j'ai eu un mandat d'administrateur. On était entre 10 et 18, donc ça fait des beaux conseils d'administration. Pour la plupart, on est entrepreneurs, et c'était aussi une belle immersion dans la stratégie d'une grande coopérative, hein, parce que Oxalis, aujourd'hui, il y a 6-7-8 millions d'euros de chiffre d'affaires. et c'est France entière. Voilà, les coopératives d'activité ou d'entrepreneurs qu'on appelle CAE, il y en a des dizaines et des dizaines dans plein de territoires. Et là, celle-ci, elle est reconnue sur l'aspect des coopérations entre les entrepreneurs. Et donc, c'est une super boîte.
Et il y a combien de personnes ?
250, okay. À peu près, je crois. Après, ça fait... Voilà, oui, qu'est-ce qui se passe ?
Et qu'est-ce qui se passe après ?
Qu'est-ce qui se passe après ? Et c'est là... Oui, il y a eu un point de rupture. Je pense que d'autres auditrices et auditeurs s'y reconnaîtront, puisque c'est le confinement. Le premier du nom, en mars 2020. Alors que j'étais pleinement dans ce collectif d'entrepreneurs, administrateurs et tout ça, à fond là-dedans, cette respiration obligée, cette parenthèse de plusieurs semaines, m'a très graduellement, mais finalement assez rapidement, parce que c'est pas très très long, me fait dire, tiens, et si j'allais défricher ailleurs ? Plusieurs éléments. Alors, on avait à peu près fini les travaux au Choulan. Il y avait effectivement un renouvellement politique, souvenez-vous, et qui augurait effectivement de belles perspectives dans le Val-de-Saône. Tout ça m'a dit, j'ai vraiment eu l'envie de dire... de travailler à la résilience. À l'époque, même Macron en parlait. Mais vraiment, avec le confinement, dire, comment on peut vraiment vivre dans notre territoire ? C'est un peu là où qu'on peut se raccrocher. Et donc, je me suis dit, allez, je vais réouvrir mon champ, ma carrière, ou dans ma vie professionnelle, sur le local et l'envie de transformer. De contribuer à la transformation de mon territoire, donc le village de Saint-Germain, et surtout finalement le bassin de vie du Val-de-Saône.
Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a eu aussi la création d'une association, Saint-Germain en transition.
Oui, qui était avant ce point de bascule, qui a commencé en 2019, et qui... au sein d'une petite association finalement villageoise, hein, qui fédérait plus quelques dizaines de personnes, et qui a donné à voir que oui, il y a une mobilisation citoyenne qui est là, qui est souhaitable, qui fait du lien, qui donne de l'espoir, des graines de sensibilisation. Et donc j'en étais effectivement un des fondateurs. Et c'est du coup naturellement vers cette association que je me suis tourné et que je me suis investi du coup au moment de cette réorientation.
Et donc au départ, c'était sur la commune de Saint-Germain, au Mont-d'Or. Mmh. Très rapidement, ça s'est étendu au Val-de-Saône. Et tu avais une intention de recherche-action de transition de territoire.
Encore un gros mot, recherche-action. Ouais. Oui, l'idée que j'avais, ça c'était juste avant de te rencontrer.
Oui.
on a raisonné sur cet élan-là. C'est à la fois utiliser les outils de mobilisation citoyenne, le sujet de fond qu'on a, sur lequel on a donné pas mal d'éléments et de billes dans une précédente émission avec Fabrice Volpré. Donc l'outil de la transition citoyenne avec l'expérience des mouvements de villes en transition cher à Rob Hopkins, dans lequel effectivement était lancé Saint-Germain en transition, mais il y avait aussi cette envie d'allier les outils et de la recherche action pour mieux comprendre le territoire dans lequel on est et comprendre sur les notions, je sais pas, d'histoire, de sociologie,
toutes les caractéristiques du territoire, que ce soit socio-économique aussi, biodiversité, géographique, habité, etc.
Ouais, tout à fait. Et la transformation, c'est aussi aller vers sur le champ de l'économie. Et donc voilà, fort de mon expérience sur l'économie sociale et solidaire, j'avais aussi rudement envie que la mobilisation citoyenne plus l'analyse, le diagnostic du territoire en recherche-action aboutissent à des projets sur l'alimentation, l'énergie, qui permettrait petit à petit d'outiller et de pouvoir consommer local, faire de la mobilité douce, développer les énergies renouvelables.
Faire émerger un mieux vivre ensemble résilient sur ce territoire.
Absolument.
Qui est notre raison d'être.
Tu viens de citer notre raison d'être. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là, effectivement, où à travers le réseau Archipel Kiosset et des collectifs pour la transition, on s'est rencontré Elisabeth en 2021.
C'est en mars 2021.
Oui. Et a rapidement émergé cette recherche-action avec ces quatre briques. Hein, je vais les reciter, donc la mobilisation citoyenne, diagnostic de territoire, couveuse d'initiative.
Oui, parce que la nécessité d'accompagner effectivement ces projets d'entrepreneuriat. Ouais.
Et donc la couveuse initiative qui, du coup, deviendra son essence, et la dernière brique de capitalisation et d'essaimage cette idée d'apporter au commun et de créer du savoir avec l'expérience engrangée.
Oui. Le propre de la recherche, c'est de produire de la connaissance. Mmh. Et donc on s'est constitué effectivement de cette manière-là, de manière à pouvoir... produire de la connaissance et transmettre, voire essaimer nos modèles.
Absolument.
Est-ce qu'il y a un rêve à l'initiative, avant qu'on revienne peut-être sur du sujet de fond, à l'origine de ton engagement, de ton action ? Ou c'est une succession ?
C'est une succession. Alors, j'ai envie de... Il y a plusieurs briques de mon parcours, je pense au premier voyage initiatique, notamment qui me donne envie de me réancrer sur un territoire, de faire collectif avec les habitants de vivre de manière plus joyeuse, avec plus de liens. Avec l'abondance que les écosystèmes nous nourrissent naturellement, on va dire, si on arrête de les de les ratiboiser. Je vais reciter notre raison d'être, hein, faire émerger un vivre ensemble résilient, joyeux, sur notre territoire, voilà. Je peux citer Bruno Latour, hein, qui parle de réatterrir. Je peux citer aussi le joyeux pragmatisme de Rob Hopkins, où la magnifique manière dont Pierre Rabhi nous parlait de sobriété heureuse, qui sont autant d'inspiration qui font sens et qui donnent corps aujourd'hui à mon engagement pour le territoire à travers ce naissance.
Aujourd'hui.
Oui. Et sur ce naissance, aujourd'hui, nous sommes du coup structurés officiellement en association depuis un peu plus de 2 ans. Et aujourd'hui, le gros de notre activité, c'est l'accompagnement à la création d'entreprises, d'activités, donc voilà, émergence et incubation.
Ou transformation de modèle.
Et aussi la transformation de modèle, oui, tout à fait. Et dans notre pari en créant son essence et avec cette recherche-action, c'est finalement ciblé sur un petit territoire, celui du Val-de-Saône et aussi la vallée d'Azergues, puisqu'il s'est un peu agrandi sur l'Azergues. Ciblé du coup un accompagnement qui touche à la fois à l'individu, donc à la création d'activités, et qui permet de mailler les acteurs du territoire qui veulent avancer vers cette nouvelle économie qu'on peut citer de régénérative. Là aussi, une émission de radio de Courant Porteur, pardon, était dédiée à ce sujet. Et on s'investit du coup dans les projets du territoire. On outille les projets de tiers-lieux, par exemple. On les aide à rentrer en synergie. On est investi dans la ferme collective du Courtil de Quincieux en tant qu'administratrice et administrateur. On en a parlé aussi dans d'autres émissions.
Avec une gouvernance croisée, parce qu'ils font aussi partie de notre gouvernance. Oui. Parce qu'on est en gouvernance partagée, effectivement.
Et parce qu'on est aussi en gouvernance partagée. Donc voilà, aujourd'hui, je suis vraiment comblé et fier de ce qu'on a commencé à construire. Et on voit aujourd'hui, puisqu'on a accompagné une trentaine, voilà, en 2 ans, de personnes qui veulent œuvrer pour le territoire. Et on commence à voir effectivement toutes les maillages et les synergies qui se passent entre ces personnes, mais aussi avec les acteurs qui sont là, avec la coopérative de transition Val-de-Saône, avec les tiers-lieux existants. Et on voit que là, le modèle, il commence vraiment à montrer qu'il fait ses preuves et qu'il faut continuer.
Et ce qui honore notre deuxième fonction, qui est activateur de territoire.
Courant Porteur.
Initiative et résilience d'un territoire. Merci Ludovic. Avant de passer à la deuxième partie de fond, quelques actualités. On a été impacté par la loi de finances de cette année, puisqu'en fait, on s'est constitué en organisme de formation, donc on est Calliope, et notre programme d'accompagnement est finançable par le CPF, par les droits à formation. Sauf que ce droit a été retiré cette année. Et donc, du coup, on s'est dit, on va mettre la barre un peu plus haut et nous sommes devenus certifiants. C'est-à-dire que dorénavant, notre programme à la création d'entreprise, donc TPE-PME, donne droit à une certification professionnelle. Et c'est opérationnel, là, maintenant. Deuxième...
Nous avons également la joie de coopérer et de piloter le programme Lance-toi avec notre grande sœur Ronalpia. Et donc, c'est 4 jours pour les entrepreneurs du territoire pour s'outiller. Ça sera en juin, juillet et septembre qui arrive là. Et ça sera sur le territoire.
Alors, du Val-de-Saône et Beaujolais, Villefranche-Beaujolais, voilà. Et Beaujolais-Pierre-Doré.
Beaujolais-Pierre-Doré, voilà, tout à fait. Mais avant ça, il y a effectivement, on en parlait sur l'émission précédente aussi, voilà, dans quelques jours, le Festival de la Transition, le 24 mai, Festival Neuville. Agir à Neuville-sur-Saône.
À Neuville-sur-Saône, mmh. Voilà. Voilà nos quelques éléments d'actualité. Mmh. Ludovic, oui. Toi encore. Maintenant que tu nous as parlé de ton parcours, mmh. Je pense que tu es tout à fait fondé pour nous parler de gouvernance partagée.
Oui, effectivement, le collectif jalonne mon parcours et il y a vraiment, dès le début de ma vie professionnelle, cette envie de faire ensemble. Et voilà, pour commencer, j'avais envie de parler, de citer Jean-François Noubel, qui est un chercheur et consultant dans le domaine de la gouvernance. Qui parle d'intelligence collective. Il dit que les grands enjeux de l'humanité ne sont pas la faim, la pauvreté, le développement durable, la paix, la santé, etc. Mais notre capacité à élaborer de nouvelles organisations capables de les résoudre. Notre enjeu principal est l'intelligence collective. Et évidemment, derrière ça, c'est la gouvernance partagée, donc les organisations qui peuvent mettre en place l'intelligence collective. Alors, non pas qu'il n'y en ait pas dans les gouvernances, on va dire, plus conventionnelles ou pyramidales, mais il y a quelque chose de plus fort dans l'encapacitation de chacune et de chacun dans ces nouvelles organisations où chacun peut prendre effectivement sa place. Voilà. Selon le mouvement Impact France, la gouvernance partagée vise l'engagement de l'ensemble des acteurs de l'organisation dans la décision et implique une redistribution du pouvoir et de la responsabilité. Et donc les décisions se font au niveau pertinent, le moins élevé possible, avec la participation des acteurs directement concernés. On parle alors de subsidiarité et de décentralisation, et dont les avis sont reconnus comme équivalents. Principe d'équivalence, sur lequel on reviendra, parce que c'est effectivement un fondamental. Et j'ai envie de vous faire écouter, du coup, le fondateur de l'Université du Nous, Laurent Van Ditswitsen, dans un extrait de son introduction à la gouvernance partagée. Voilà, une vidéo sur laquelle vous pourrez retrouver dans les commentaires de l'émission.
Changer nos organisations nécessite d'accepter de nous changer nous-mêmes. C'est bien là le défi. Nous pouvons choisir de rester prisonniers des modèles dominants-dominés, de continuer à nourrir la croyance que nos fonctionnements actuels sont une fatalité liée à ce que serait la nature même de l'être humain. Ou bien, nous pouvons choisir une voie de sortie par le haut, pour chacun et chacune, dans cette nouvelle façon d'envisager l'organisation, la relation. La relation d'équivalence au pouvoir nous propose de sortir du pouvoir sur quelqu'un, sur quelque chose, en imposant ma vision à l'autre ou à l'organisation dans laquelle je suis inscrit, pour aller vers celle du pouvoir de créer, de construire, le pouvoir de faire avec les autres en étant pleinement ce que je suis. Si je me transforme, je transforme mon organisation, familiale, sociale, entrepreneuriale. Si les organisations se transforment, c'est la société tout entière qui pourrait bien se transformer. C'est ce que nous appelons transformation personnelle, transformation sociétale.
Merci Laurent. Et j'aime bien la manière dont il remet les enjeux de fond aussi à cet endroit. Et le côté systémique entre son transformer soi et la transformation du collectif et au-delà de la société. Et il y a vraiment... dans ces notions de gouvernance partagée, ces trois niveaux et qui sont toujours à l'œuvre et qui viennent toujours s'articuler d'une manière ou d'une autre.
Et je fais juste un effet rebond, cette transformation personnelle, transformation sociétale. Dans le programme, dont le petit nom qu'on a en interne, c'est « Entrepreneur de sa vie ». on porte effectivement cette même envie et on outille à cet endroit-là également. Voilà, pour le petit effet rebond. Est-ce que tu peux, Ludovic, nous parler de formation ?
Oui, enfin, tu veux dire des formations que moi-même j'ai suivies et du coup qui me permettent de...
Oui, je pense qu'elles peuvent être utiles à d'autres également. Il y en a certaines que j'ai faites, mais pas toutes.
Oui. Il y en a pas mal. J'ai parlé effectivement des plusieurs journées que j'ai faites avec l'Université du Nou. Mais avant ça, j'avais fait une formation de facilitateur au Forum ouvert. J'ai fait les 3 modules de communication non violente. C'est aussi pour parler de ça, de la posture. Une formation à la restauration, au cercle restauratif. Une formation à la sociocratie. Je pense que j'en parlerai juste après. Une formation aux outils de transition citoyenne avec Colibri à l'époque. Et formation à la posture de l'accompagnement, alors c'est encore un peu connexe, mais tous ces éléments finalement permettent d'avoir des outils, mais c'est, pour moi c'est surtout le savoir-être qui est essentiel, parce que tout outil il peut dévoyer, et si la posture n'est pas au service, ça... ou si elle n'est pas alignée, ou si on n'est pas à l'écoute de soi ou des autres, ça ne marche pas. On peut facilement dévoyer la CNV et en faire quelque chose qui soit même compris violent. Alors CNV, communication non violente, pardon.
Oui, tu as parlé de forum ouvert, enfin, oui. Il y a plein de concepts, oui. On vous invitera à les regarder parce qu'on ne peut pas décrire tous ces processus. Mais c'est des outils dont on peut s'emparer, qui nous peuvent nous permettre d'expérimenter les choses.
Et finalement, peut-être ce qui me sert encore le plus dans la gouvernance partagée, mais bien plus largement aussi, c'est le schéma de thérapie que je fais sur moi-même aussi. Mmh. D'aller voir les endroits où je suis sous une carapace du fait de mes traumas d'enfance et là où je ne suis pas vraiment en relation avec mes ressentis ou avec les autres. Et je pense que j'ai envie de dire une bonne thérapie ou une vraie compréhension de soi est peut-être la meilleure des formations du coup pour pouvoir interagir avec les autres et notamment en gouvernance et surtout peut-être même en gouvernance partagée.
C'est effectivement un des piliers et du coup on va parler de clés. Les clés de la gouvernance partagée, quelles sont-elles?
Oui, je vais m'inspirer de contenu que partage l'Université du Nou, notamment, mais voilà, qui reprennent effectivement des éléments, conventionnels, voilà, en tout cas habituels dans la gouvernance partagée. Donc les différents clés ou ingrédients, j'ai envie de commencer par citer la question de la raison d'être. Qu'il est nécessaire que l'organisation ait une raison d'être claire pour les membres, voilà, une orientation pour savoir au service de quoi on veut œuvrer. Et ça permet du coup aussi de pouvoir la piloter, y compris de manière dynamique. La raison d'être, elle peut se réinterroger. Effectivement, il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre du vivant et qui nécessite d'être agile et de voir qu'est-ce qui est présent et vivant ici et maintenant, en tenant compte de l'ensemble, hein, pour voir quels sont les prochains petits pas.
Oui, pour faire du lien avec ce qu'on connaît plus classiquement, on peut parler de l'objet de l'entreprise, mais c'est un objet qui a pour but également d'être utile, qui va définir son utilité, à quoi elles veulent contribuer.
J'ai parlé de la posture, je peux effectivement dire quelques mots-clés derrière, parce que c'est... on parle du jeu dans le nous, de comment je suis au service à la fois en écoute de moi-même et en écoute de ce qui se passe pour le groupe et au service de l'organisation. Donc ça nécessite de lâcher prise, de reconnaître son ego, effectivement, savoir se remettre en question, avoir adopté aussi une ce qu'on appelle une métaposition,
une posture haute, où on s'observe
nous et le reste du groupe, de manière à pouvoir avoir des temps et avoir dédié des temps pour l'organisation, pour dire, bah, tiens, comment on a fonctionné, comment était cette réunion, comment on peut s'améliorer. Il y a toujours des manières de s'améliorer, quoi. Et donc, il y a dans toutes les formations, les journées de formation de Sonnaissance, il y a un mot que j'aime bien, qui est la souveraineté, qui est de la responsabilité de ses propres besoins, de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, de ce qu'on dit et de ce qu'on ne dit pas.
De ce qui est notre limite.
Oui.
Aussi, et de ce qu'on s'autorise à vivre dans un cadre sécure.
Voilà. Et avec une notion d'authenticité qui va aussi avec la bienveillance avec soi et avec les autres. Mais on ne parle pas d'une bienveillance qui serait de ne pas dire ce qui gratte, mais d'être dans l'authenticité aussi. Et c'est aussi bienveillant de pouvoir faire le cadeau de sa subjectivité, de ses limites aux autres. Et donc, dans le vivre ensemble ou dans le cadre d'une prise de décision, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et on parle de cette posture-là, quoi.
Ça parle aussi d'écoute et de coopération, cette posture.
Oui, bien entendu. Les formations, actions de l'Université du Nous sont aussi beaucoup dans... Enfin, voilà, ils reprennent la notion de coopération, ils la font vivre, y compris dans le corps. Voilà, parfois dans la danse, parfois voilà, dans des structures qui nous font vraiment expérimenter et vivre dans nos cellules la coopération. Je vous invite à aller si vous avez l'occasion effectivement de vivre ces journées, ces ateliers là
oui, et puis peut-être petit témoignage, moi qui ai vécu une vie professionnelle dans l'entreprise privée, c'est pas qu'il n'y a pas d'écoute ou de coopération. Mais c'est vrai que, en tant qu'introverti aussi, s'exposer et participer au processus global, c'est pas si simple et ça demande à s'expérimenter encore et encore. Mais on finit par aimer ça.
Les ingrédients de la gouvernance partagée, c'est aussi définir qui décide quoi. Et donc. Les fameuses fiches de poste qui sont importantes dans toute organisation. Et ça va peut-être sans dire, mais mieux en le disant, que du coup, chacun est des actions, lorsqu'on appelle redevabilité, hein, dans le jargon, de redevabilité, de savoir qu'est-ce qu'il doit faire, quel est le périmètre d'action de chaque groupe, de chaque sous-groupe. Et d'être en mesure de pouvoir attribuer des rôles et des missions.
Oui, on parle moins de fonctions, mais plus de rôles.
Absolument. Un autre élément vraiment très important, c'est la co-construction d'un cadre de sécurité. Alors, eux, ils appellent ça cadre de sécurité. C'est tout ce qui contribue à se sentir sécure dans un groupe. Donc, savoir comment on y rentre, comment on en sort. Le processus d'intégration, il est vraiment capital qu'il soit effectivement clair, idéalement co-construit, et qu'il soit effectivement maturé avec le groupe. Et là, qu'on parle d'un habitat participatif ou d'une petite association, c'est des choses qui sont... qui sont importantes pour savoir qui peut arriver demain et comment on accède et quelles sont les étapes de manière à ce qu'il accède à l'équivalence du groupe du noyau au cœur. Voilà. Mais c'est également ce qu'on appelle le cadre relationnel, donc c'est savoir effectivement mettre des mots sur la posture attendue, est-ce qu'on peut se couper la parole ou pas ? La réponse est dans la question. Quelle est la place des émotions ? Est-ce qu'il y a de la confidentialité ou pas ? Dans quel cercle ?
Temps de parole équitable. Moi, je l'aime bien, celui-là.
Tout à fait.
Il n'est pas facile, mais il est très instructif.
Ouais.
Apprenons.
Et faire la différence, je rebondis là-dessus, entre l'équité et l'égalité. Et donc, sur un sujet donné, il n'est pas forcément nécessaire que chacun ait un temps de parole égal, mais que dans tous les cas, le fait que chacun puisse s'exprimer C'est important, voilà, sur un sujet donné qui implique et qui impacte tout le groupe.
Le temps de parole, enfin le fait d'être en parole concise aussi. J'aime bien celui-là.
Tout à fait. Voilà, dans le cadre de sécurité, il y a aussi la manière dont on va réguler, transformer les tensions, les conflits. Et aussi décrire qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas et donner un processus d'exclusion de manière à pouvoir sécuriser un groupe par rapport à une personne qui serait
hors champ
et qui deviendrait on va dire dangereuse pour le groupe et pour la raison d'être du groupe. Voilà, ce sont des choses qui sont réellement importantes. En trame de fond, pour toute organisation, d'ailleurs qu'elle soit en gouvernance partagée ou pas, il y a la question du nous, de comment on fait du lien, comment on arrive à ce que les unes et les autres et les uns et les autres puissent reconnaître les richesses de chacun, chacune, comment on peut célébrer, comment on peut être en authenticité ou pas, comment on la question de l'être, comme le savoir-être, ou qu'est-ce qu'on fait ensemble, enfin voilà, pour faire vivre et rendre goûtu, nourrissant, épanouissant finalement le collectif. Toutes ces questions sont et la question de comment on crée l'équipe, comment on crée le nous et comment on le maintient, comment on célèbre les avancées, elle est vraiment pertinente et vraiment importante. Voilà, moi je le vis dans mon habitat participatif. On fait très régulièrement des fêtes, des anniversaires, des concerts. Et c'est vraiment une manière de célébrer. Et ça permet effectivement d'équilibrer par rapport à des temps où on a des réunions qui sont pas toujours. Qui sont pas toujours marrantes quand il y a des tensions ou quand il s'agit de parler des sous parce que on a des problèmes de travaux de trésorerie, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver et du coup d'avoir des temps aussi qui viennent nourrir le groupe, et les interactions individuelles et collectives, c'est vraiment nécessaire. Un gros morceau sur lequel je voulais aussi prendre un peu de temps, c'est le processus de décision. Au Choulan, on a choisi la gestion par consentement, donc qui est un des piliers de la sociocratie. Alors la sociocratie, c'est un concept qui date des années 70 en gros, des Pays-Bas, qui décrit un mode de gouvernance. Qui sort de la structure pyramidale pour redonner de l'équivalence dans les personnes dans une organisation. Voilà. Et donc il y a quatre piliers dans ce champ-là. Il y a le cercle, donc le fait que on soit en équivalence au sein d'un cercle, et donc quand on fait des réunions, on est en cercle. Et il peut y avoir, par exemple, on prend un bâton de parole et que du coup chacun a son temps de parole dédié. Donc c'est un des quatre piliers. Et un autre pilier, c'est effectivement le processus de prise de décision, donc qu'on appelle gestion par consentement, et qui est une manière de trouver de se mettre d'accord sur une proposition avec zéro objection.
Oui, parce qu'il y a une différence entre consensus et consentement.
Bien sûr. Le consensus, c'est trouver la meilleure... en général, c'est trouver la meilleure des solutions. Ce qui nécessite de prendre pas mal de temps. Et ce qui peut peut-être aussi souvent avoir... favoriser des polarités et ou des conflits, tandis que le consentement, il y a finalement plein de sur une décision donnée, si on parle de la couleur du volet, finalement peut-être plusieurs solutions qui peuvent convenir à tout le groupe. Et donc la question de l'objection, vu qu'on passe à donc les solutions à zéro objection, c'est est-ce que les personnes ont quelque chose à dire qui remettrait en cause la décision parce que ça voilà, suggérerait qu'il y aurait un risque pour l'organisation ou un risque dans sa place dans le collectif. Et donc qu'il y ait une objection ou qu'il y ait une personne qui formule une objection ou la moitié qui formule une objection, ça revient au même. On essaie de traiter l'objection. Traiter l'objection, c'est peut-être dire ah bah ok, on fait un test. Est-ce que c'est assez voilà, est-ce qu'on arrive à tester voilà pendant 6 mois et on fait un point. La sociocratie, c'est aussi une manière de d'avancer de manière organique et de pouvoir trouver effectivement des chemins qui puissent correspondre à tout le monde, et c'est aussi se laisser aller, enfin se laisser avoir une forme de lâcher prise. De toute façon, la manière dont les choses se déroulent, finalement on connaît jamais le futur, et finalement l'application d'une décision et l'énergie que va mettre le groupe, elle peut dépendre aussi d'actions et de circonstances extérieures.
Mais ça veut dire qu'il y a une proposition et puis après, tout le monde donne ses éventuelles objections. Donc c'est le premier qui parle qui a raison, quasiment.
Il y a, en amont d'une prise de décision par consentement, un formalisme plus ou moins fort en fonction des collectifs et de l'appropriation de la sociocratie, de manière à construire une première proposition.
Ah, ok.
et donc souvent...
Ça tombe pas de nulle part.
Ça tombe pas de nulle part, et il y a tout à fait. Et il y a souvent. Alors après, c'est en fonction vraiment des groupes et du type de décision. Mais en tout cas, il y a un défrichage et non pas des chiffrages, défrichage collectif qui peut être fait sur un sujet donné, et ensuite un sous-groupe. Voilà, c'est ce qu'on vit de manière régulière en choulant, et que du coup, un ou deux ou trois personnes vont collecter ça et faire une proposition qui va être soumise. Et donc, il y a plusieurs tours. Je ne vais pas rentrer dans le détail là pour mener cette proposition jusqu'à avoir la bonifier, c'est prendre le temps de la bonifier jusqu'à ce qu'elle ne rencontre plus aucune objection et qu'ensuite on puisse célébrer.
Oui, mais c'était important de préciser qu'il y a quand même tout un processus, c'est pas juste il y a une proposition et puis si t'as pas d'objection, c'est ok.
Absolument. Et un autre pilier de la sociocratie est l'élection sans candidat. C'est un magnifique processus qui permet d'élire quelqu'un sans qu'il soit candidat a priori. Voilà, donc là aussi, il y a une douzaine d'étapes dans les premières étapes, on élabore le mandat, on donne quelles sont les qualités requises, et ensuite c'est un processus avec des papiers, un facilitateur qui permet de faire émerger un peu de lui-même une personne au sein du groupe à qui on dit bah tiens, moi je te reconnais. Donc c'est une formidable manière de donner de la reconnaissance au groupe. Oui. Enfin à des personnes où chacun peut dire tiens, moi j'aimerais bien voter pour lui parce que ça voilà. Et qui porte effectivement des personnes qui n'avaient pas forcément prévu de remplir le mandat, alors de gérant par exemple de la SCI par exemple, ou de président du conseil d'administration d'Oxalis, parce qu'on a tenté effectivement à 18 dans une grosse boîte comme Oxalis, et on a élu sans candidat, on a fait plusieurs, je pense qu'ils continuent encore, même sans moi, à élire le président comme ça. Et donc, évidemment, la personne peut objecter en disant bah, « Non, moi, je ne suis pas OK parce que je n'ai pas le temps, parce que je ne le sens pas, machin chose. » Et auquel cas, bah, le processus continue. Mais voilà, c'est une magnifique manière de créer du « nous ». Voilà.
Et en plus, comme c'est une personne qui est nommée, reconnue, je crois que ça porte. Et puis les problématiques de légitimité, ça permet aussi d'y trouver une solution. Merci Ludovic.
Merci Elisabeth.
C'est le moment pour nous d'arrêter cette émission.
Vous retrouverez du coup en fin de... dans la page de l'émission, effectivement, les liens et les références qu'on a citées pendant cette émission. Et nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission.
Au revoir.
Au revoir.
Vous venez d'écouter Courant Porteur. initiative et résilience d'un territoire.
Une émission mensuelle pour faire émerger un mieux vivre ensemble résilient dans le Val-de-Saône. Vous pouvez retrouver l'émission et ses références sur radio-calade.fr.
Et pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site sonessence.fr. SAONE2SENCE.